100 balles pour sur
Tilbazar.
Moi j'habite pas si loin. T'as vu de 3 et 7 sur mon brassard. Où j'ai tout essayé.
Radio G 101.5 FM. Impromptu littéraire.
Voici quelques pages écrites par Anne Brunswick sur les Juifs de Sibérie,
poétesse et universitaire, dont nous avons choisi de vous donner le témoignage.
Amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous vous proposons la lecture à plusieurs voix.
Les femmes en avaient payé le plus lourd tribut. Le cas de Yissou.
Pour amener un peu de légèreté dans cet univers marqué par une histoire souvent
terrible, je vous ai choisi un extrait du chapitre 9, intitulé.
Assise près de l'incubateur, espèce de navire miniature en plexiglas.
On sélectionne la main-d'œuvre destinée aux mines, aux chantiers, aux coupes de bois.
Des textes d'auteurs du 20e et du 21e siècle viennent jusqu'à votre oreille. Écoutez.
Amis auditeurs, bonjour. Partons aujourd'hui en Alaska. Marie Vintra, dont c'est le premier roman, publié en 2021 aux éditions d'Olivier, a imaginé un polar en terre arctique. Sont réunis dans cette nature austère du Grand Nord plusieurs personnages dont on apprend au fil du récit ce qui les réunit ou les oppose. Au début, un enfant nommé Thomas a disparu dans le blizzard, quittant la main de Bess censée veiller sur lui. Pour plus de commodité, laissez-nous vous présenter succinctement ceux dont vous entendrez la voix. Bess, que nous avons nommée, est rongée par la culpabilité de n'avoir pas accompagné sa sœur agressée mortellement. Elle a vécu toutes les aventures possibles dans différentes contrées des États-Unis avant de se retrouver dans ce Grand Nord en charge d'un jeune garçon né à New York. Bénédicte, véritable trappeur, a vu son frère Thomas partir sans explication de la maison où ils vivaient avec leur père Magnus et sa mère Sully, lesquels ont disparu au moment du récit. Bénédicte et Thomas ont depuis leur jeunesse côtoyé Cole, homme au passé obscur, embauché par Magnus. Cole est reconnaissant envers celui-ci car il ne lui a posé aucune question. Il participe à la vie de trappeur, initie les garçons à la chasse, partage ses beuveries avec Clifford et voit d'un mauvais œil l'arrivée de Bess et de ce petit que Bénédicte prend pour son fils. Sa misogynie et sa frustration sexuelle font des êtres qu'il croise des proies potentielles. Et dans ce désert tout blanc, il y a Freeman, noir, ancien soldat au Vietnam, arrivé ici on ne sait pourquoi ni comment.
Bess. Je l'ai perdue. J'ai lâché sa main pour refermer l'lacet et je l'ai perdue. Je sentais mon pied flotter dans ma chaussure. Je n'allais pas tarder à déchausser et ce n'était pas le moment de tomber. Saleté de lacet. J'aurais pourtant juré que j'avais fait un double nœud avant de sortir. Si Bénédicte était là, il me dirait que je ne suis pas suffisamment attentive. Il me signifierait encore que je ne fais pas les choses comme il faut. À sa manière. Il n'y a qu'une seule manière de faire, à l'entendre. C'est drôle. Des manières de faire, il y en a autant que d'individus sur Terre. Mais ça doit le rassurer de penser qu'il sait. Peu importe, j'ai lâché sa main. Combien de temps? Une minute? Peut-être deux? Quand je me suis relevée, il n'était plus là. J'ai tendu les bras autour de moi pour essayer de le toucher. Je l'ai appelé. J'ai crié autant que j'ai pu. Mais seul le souffle du vent m'a répondu. J'avais déjà de la neige plein la bouche et la tête qui tournait. Je l'ai perdu. Je ne pourrai jamais rentrer. Il ne comprendrait pas. Il n'a pas toutes les cartes en main pour savoir ce qui se joue. S'il avait posé les bonnes questions, si j'avais donné les vraies réponses, jamais il ne me l'aurait confié. Il a préféré se taire, entretenir l'illusion, prétendre que j'étais capable de faire ce qu'il me demandait. Au lieu de cela, dans cette terre de désolation qui suinte le malheur, je vais ajouter à sa peine, apporter ma touche personnelle au tableau. Il faut croire que c'est plus fort que moi.
Bénédicte. Rétrospectivement, je crois que j'ai senti que quelque chose ne tournait pas rond. C'est un peu comme lorsque vous avez la sensation qu'un insecte vous chatouille l'oreille. Vous faites un geste pour vous en débarrasser, mais en réalité c'est une alarme. Votre alarme interne, réglée au strict minimum. Pas assez forte pour vous faire bondir, mais juste assez pour vous empêcher de dormir tranquillement. Je dormais justement et je me suis réveillée en sursaut. Était-ce un pressentiment ou bien le courant d'air froid qui venait d'en bas? Je ne sais pas. J'étais tellement fatiguée d'avoir passé les derniers jours dans l'excitation à relever les pièges, à ranger le matériel et à nous préparer avant que n'arrive le mauvais temps. J'ai toujours aimé les tempêtes, et surtout le moment juste avant, quand il faut tout protéger, boucher les interstices, rentrer assez de bois pour tenir quelques jours et se faire un espace clos le plus hermétique possible. Et puis, quand la tempête est là, ce claquemuré avec la cibie qui grésille, une tasse de café brûlant pour se réchauffer les mains, et le feu dans la cheminée qui se rebelle à cause de la neige qui tombe dans le conduit et du vent qui s'y engouffre. J'entends la maison qui craque et qui gémit comme un petit vieux. Parfois, j'ai l'impression qu'elle me parle, comme elle a peut-être parlé à mes parents et à mes grands-parents avant eux, de génération en génération. Jusqu'au premier Meyer qui a décidé de s'installer ici, en terre hostile, et de prétendre qu'il serait plus fort que la nature. La maison est encore debout, et je suis bien au chaud à l'intérieur, protégée par ses murs comme un diamant dans son écrin, sauf que je suis tout seul. Quand je suis descendue de l'étage, la porte était grande ouverte, et la neige s'était déjà engouffrée par paquets. Ça m'a énervée. J'ai crié « Bon Dieu, baisse ! Tu ne peux pas fermer cette foutue porte ! On va tous crever de froid par ta faute !» Mais elle n'a pas répondu. C'est seulement à ce moment-là que j'ai vu que les bottes du petit n'étaient pas là et que leur veste n'était plus accrochée au porte-manteau. J'ai compris qu'elle était sortie avec lui, alors que même une fille aussi spéciale qu'elle aurait dû savoir qu'on ne sort pas dehors en plein blizzard.
Cole. Si le Seigneur m'entend, je jure solennellement que je boirai plus une goutte d'alcool. J'ai tellement mal à la tête avec ce truc que ce salopard m'a fait boire. Appeler ça de l'eau de vie, c'est vraiment se foutre de la gueule du monde. Je sens plus ma gorge et j'ai le bide en vrac. C'est à vous donner l'envie de virer bonne sœur, même si j'ai pas l'attirail pour ça. Je sortais à peine des toilettes à cause de la courante que l'alcool m'avait causée, quand ça a tambouriné de tous les diables à la porte. C'est pas un temps à mettre un bon chrétien dehors. Alors je me suis reboutonnée comme j'ai pu et j'ai attrapé mon fusil. On sait jamais ce qui peut courir les bois. J'ai crié « C'est qui ?» Un truc auquel un ours pourrait pas répondre, mais il y avait trop de vent dehors pour que je puisse entendre quoi que ce soit. Les coups ont redoublé. Ma foi, j'avais pas le choix. J'ai tourné le verrou, entrouvert la porte avec mon pied, et j'ai vissé l'entrebâillement au cas où. « Tire pas, Cole, c'est moi !» qu'il a crié. J'ai reconnu la grosse voix grave de Bénédicte. Il était couvert de neige. Ça lui faisait comme des épaulettes de général de pacotille. Il avait déjà le bout des cils tout blanc, avec des gouttes de givre, comme des décorations de stripteaseuse. Enfin, je dis ça parce que j'en ai vu une en photo dans un magazine qui traînait chez Clipford. La fille avait des petites gouttes rouges au bout de ses faucilles. Ça lui faisait un regard bizarre, comme une poupée. Il paraît qu'il y a des types qui aiment ça. Bénédicte m'a poussé d'un coup pour refermer la porte derrière lui. Il n'a même pas enlevé son couvre-chef. Il s'est appuyé contre le mur, il a passé sa main sur son visage et puis il a dit, comme s'il avait vu passer un revenant, « Bess et le petit sont partis, ils sont dehors. » C'était tellement crétin comme idée que j'ai rigolé. « Me fais pas rire, Bénédicte, elle est pourrie ta blague !» Je lui ai dit. « Tu crois que je serais sortie avec ce temps juste pour te faire marcher ?» qu'il m'a répondu. J'ai vu rien qu'à sa tête qu'il était sérieux et, bon sang, si c'était vrai, alors on avait du souci à se faire. Il a tout juste 10 ans, le môme, et l'autre, elle a pas 2 sous de jugeote. Je lui ai demandé « Mais qu'est-ce qu'on fait alors ? » Il m'a répondu un truc qui m'a pas fait plaisir. « Qu'est-ce que tu crois, on va les chercher ?» Ça, c'était pire que la bibine de Clifford. et j'ai eu comme une envie d'en reprendre une lampée.
Freeman, je n'ai pas fermé l'œil de la nuit avec ce temps. Le vent souffle tellement fort autour de la maison que je ne sais pas comment elle tient encore debout. J'ai l'impression que les murs sont pris dans un étau entre la poussée des rafales et la neige qui s'accumule. Dieu sait comment je vais réussir à en sortir quand tout sera fini. Lors de la première tempête que j'ai vécue ici, je suis restée bloquée 2 jours. Il y avait bien 5 pieds de neige devant la porte, et je ne pouvais pas ouvrir les volets des fenêtres que j'avais stupidement fermées. Une erreur de débutant, m'avait dit Bénédicte. J'ai dû grimper jusqu'au grenier à mon âge, et redescendre par la lucarne avec une corde. L'opération n'a pas tout à fait marché comme je le souhaitais. Je me suis déboîté l'épaule dans la chute et il a quand même fallu que je m'occupe de pelleter la neige avec mon bras valide avant de pouvoir trouver de quoi bloquer l'autre bras. Ce coup-ci, j'ai essayé de déblayer le plus possible tout autour de la maison en espérant que ce soit suffisant. C'est quelque chose qui ne s'invente pas, savoir survivre. Là d'où je viens, on n'a pas à se poser de questions pour savoir si la neige vous empêchera de sortir. Il n'y a pas de neige. Pas le moindre flocon. Et si j'avais le choix, je préférerais 100 fois être là-bas plutôt que dans ce pays à supporter mes rhumatismes. Le froid, l'humidité, c'est pas bon pour ma vieille carcasse. Ce serait un comble d'avoir survécu à tout ce que j'ai connu pour mourir maintenant, moisie comme une vieille branche pourrie. Qu'est-ce que je fais là alors ? Je suppose que s'il a voulu que nos routes se croisent et que je m'enterre au bout du monde, c'est qu'il y avait une bonne raison à cela. Il sait que je suis un pécheur. Mais si mon Dieu de miséricorde a un plan pour moi, j'attendrai jusqu'à ce que la lumière soit faite. Je suis gelée, mais j'attendrai puisqu'il le faut. Et pour être tout à fait honnête, je n'ai pas vraiment d'autre choix.
Bess, je ne vois rien. La neige s'envole du sol en tourbillon et lorsque je lève les yeux vers le ciel, c'est une vraie purée de pois. L'air est incolore, comme si toutes les couleurs existantes avaient disparu, comme si le monde entier s'était dilué dans un verre d'eau. Je regrette de ne pas avoir fait plus attention quand Bénédicte essayait de décrire le fonctionnement des blizzards aux petits. J'aurais peut-être su ce qu'il fallait faire. À part ne pas sortir, bien sûr, mais ça, il est trop tard pour le regretter. Je tourne le dos au vent, appuyé sur ce que je suppose être un rocher. À moins que ce soit un ours qui hiberne, ce qui réglerait mon problème. Je ne parviens pas à réfléchir à la conduite à tenir, mais je vais me transformer en bonhomme de neige si je ne bouge pas. Je ne suis pas complètement idiote. Je sais dans quel pétrin je me suis fourré. Il faut que je bouge, que je trouve le gosse ou que je retourne à la maison chercher Bénédicte, même s'il pourrait avoir envie de me décoller les oreilles à grands coups de baffe si je reviens seule. Je ne peux pas rentrer, je ne peux pas lui expliquer. Ce serait trop d'un seul coup. Il est solide, mais il y a des choses qui sont trop dures à entendre. De toute façon, je ne peux pas laisser le petit tout seul, puisque je ne sais même pas dans quelle direction aller. Je vais marcher droit devant moi. C'est ce qu'il a dû faire. C'est bête, parfois, un gamin. Ça fait des trucs sans réfléchir, à l'instinct. Même un petit génie comme lui. Alors, si je ne réfléchis pas, moi, j'avance tout droit. C'est sûrement ce qu'il y a de mieux à faire.
Bénédicte, nous sommes partis de chez Cole comme 2 forçats qui auraient eu les fers aux pieds. D'après l'heure, c'était bien le matin, mais c'était difficile d'en être sûr parce qu'on ne voyait même pas le ciel. En allant chez Cole, je m'étais demandé où ils avaient pu vouloir aller avec un temps pareil, même s'il était difficile de se mettre dans la tête de ces deux-là. Est-ce que le petit avait oublié quelque chose dehors qu'il voulait récupérer ? Il trimballe toujours un bouquin avec lui, ou la loupe de Magnus que je lui ai donnée quand il est arrivé ici, en espérant lui faire passer un peu la pilule. Même s'il est petit pour son âge, on dirait un professeur en goguette avec ses lunettes et ses livres sous le bras. À 4 ans, elle lui avait déjà appris à lire et à écrire,
Et à 6 ans, il savait faire les 4 opérations de tête. Quand je pense que Cole a déjà du mal à faire une addition correctement, lorsque le môme me parle, j'ai l'impression d'être stupide. Maman a eu beau nous faire la classe, je ne peux pas rivaliser. Ce mioche pourrait vous rendre honteux de vous-même. Je sais bien qu'il ne le fait pas exprès. Il ne cherche pas à humilier les gens. Il est comme ça, c'est tout. Il a un haut potentiel, comme disait sa mère. Et c'est à moi qu'elle a confié ce haut potentiel, comme si j'allais pouvoir l'aider à croître. Elle m'a dit « Bénédicte, tu m'as promis, tu le garderas avec toi. » Et moi, je lui ai lâchement répondu qu'elle ne pouvait pas me demander ça, que je ne pouvais pas vivre dans cette ville qui m'étouffait, cette ville où l'on ne pouvait pas étendre les bras sans toucher quelqu'un, où les gens étaient plus froids que ne le serait jamais un gars de chez moi. Je lui ai dit « Tu ne peux pas me demander de rester ici, je vais en crever. » Et elle m'a répondu « Bénédicte, emmène-le où tu veux, mais reste avec lui, toujours. Ne le laisse jamais loin de toi. » Et qu'est-ce que j'ai fait ? Je l'ai ramené ici et je l'ai laissé se perdre. Je n'ai pas su veiller sur lui. Je n'ai pas réussi à lui apprendre ce que mon père m'avait appris. Je n'ai même pas su lui transmettre ce qu'un père doit transmettre à son fils.
Ça fait déjà un bon bout de temps qu'on marche. Bénédicte a préféré les raquettes aux motoneiges. On n'aurait pas pu suivre les traces si on en avait vu. On aurait pu se retrouver dans un fossé en un rien de temps. J'ai ma grosse lampe frontale et des piles de rechange. Pour pas qu'elles se déchargent dans le froid, je les ai mises dans une chaussette nouée à l'intérieur de ma ceinture. C'est encore le vieux Magnus qui m'a appris cette astuce. Quand je suis arrivée ici, j'en savais à peine plus qu'un gosse, mais il m'a tout expliqué patiemment, comme si on pouvait rattraper le temps perdu. Il m'a appris à poser les pièges, relever les lignes, dépecer les bêtes, racler les peaux, pour enlever la chair, même si c'était pas le boulot le plus agréable. Et puis aussi reconnaître les traces des animaux, savoir quel était le gibier et aussi de qui on était le gibier. C'était plus que mon propre père m'avait jamais appris. Lui qui s'était contenté de me rosser chaque fois que je me trouvais sur son chemin pour me faire regretter ce que j'étais. Magnus m'a montré tout ça sans jamais me demander ce qui m'avait amené chez lui. Je ne crois pas qu'il l'ait demandé à aucun gars qui se présentait sur le pas de sa porte. Et comme il me l'avait appris aussi, j'ai laissé une lumière allumée dans la maison avant de partir, comme Bénédicte. On sait ce que ça représente une lumière dans la nuit ou dans le blizzard quand vous êtes perdu. Ça doit être un peu comme un phare dans la tempête pour un marin. Ça veut dire qu'il y a un être humain quelque part et que vous allez peut-être survivre aux éléments. On a suivi tant bien que mal le sentier qui part de chez Bénédicte plutôt que de rejoindre la route. Il dit qu'il faut se mettre dans la peau du gamin, mais qui sait si c'était pas la fille qui était aux manettes ? Timbrée comme elle est, elle a pu partir n'importe où, même chez elle dans le Grand Sud. Autant essayer d'acclimater un singe au Grand Nord. Je comprends pas pourquoi il l'a amené ici. Il a de la jugeote d'habitude. C'est un gars d'ici, pas un de ces crétins des villes qui viennent se perdre sur nos routes en été pour être en communion avec la nature, comme ils disent, avec leurs lunettes à monture d'écaille, leur GPS qui ne fonctionne pas, leurs pantalons retroussés comme s'ils allaient à la pêche et qu'il n'y avait pas de moustiques. Chez nous, tu réfléchis pas pour savoir si t'es beau en t'habillant. Tu t'habilles juste pour pas te geler les roubignoles et pour qu'on soit pas obligé de te couper les orteils gelés. Et même en faisant attention, ça arrive parfois. Comme à Moses qui avait plus qu'un seul orteil au pied gauche, ou Hanson le Suédois, qui, soit dit en passant, n'avait plus grand-chose à voir avec la Suède, à qui il manquait 2 doigts à cause de sa tronçonneuse grippée par le froid qui lui avait échappé des mains. Ici, il faut pas attendre d'avoir les doigts gelés pour s'en soucier. À moi, ça n'arrivera pas. Je suis plus malin que les autres. Du moins, en temps normal, quand je me retrouve pas dehors à chercher un gosse et une folle. On pourra pas dire que c'était de ma faute. C'est sa faute à elle, et surtout la faute de Bénédicte. Mais à voir comment il marche, le dos voûté, le pauvre gars, il le sait déjà.
Freeman.
Ma vie a vraiment changé quand j'ai été appelée pour combattre au Vietnam. J'avais le profil pour y être envoyée, disaient mes sœurs. Trop pauvre pour pouvoir refuser, trop stupide pour me rebeller. Ce qu'elles ne parvenaient pas à concevoir, c'est que j'avais trouvé cela parfaitement normal. Je n'ai pas cherché à être réformée, et je n'aurais même pas su comment faire, à vrai dire. J'étais d'accord pour tout ce qui pourrait me faire devenir un homme. Tout ce qui me permettrait de ne plus être le petit dernier d'une famille de filles. Je rêvais de partir, même si j'allais devoir me battre, moi qui étais si calme par nature et si réservée. Évidemment, je ne savais pas vraiment ce que cela impliquait de devenir un soldat. J'avais une idée si lointaine de la violence. Il faut me voir sur la photo de mes 19 ans, tout sourire, comme un jeune homme à peine sorti de l'enfance. J'étais tout simplement incapable d'imaginer ce qui m'attendait. Ils n'étaient pas beaucoup plus au courant que moi à la maison, mais c'était mon entrain qui laissait mes sœurs sans voix. Même l'instruction militaire n'a pas entamé mon optimisme. J'y ai mis toute ma bonne volonté, alors que je n'étais pas encore bâtie pour ça. J'ai rampé dans la boue, marché des miles et des miles, les pieds en sang dans mes godillots. Monter et démonter inlassablement mon M14 avec un instructeur qui me hurlait au visage que j'étais une sous-merde. Ce n'était pas grave. J'étais tellement persuadée d'être un Américain comme un autre, même si les autres appelés me trouvaient plus naïf qu'un nouveau-né, et que pour nos chefs, je suppose que j'étais et je resterais un nègre, même avec un uniforme sur le dos. Je n'ai pas bronché quand j'ai été affectée au MOS que tout le monde redoutait. L'infanterie, cela voulait dire être en première ligne, devenir de la chair à canon. Mon voisin de chambrée m'a tapé sur l'épaule en me disant que je ferais mieux d'aller tirer un coup pour ne pas mourir puceau. C'était un type que j'aimais bien, et il avait l'air tellement sérieux que j'ai eu un pincement au cœur. Il me regardait comme si j'allais monter à l'échafaud, et j'ai réalisé seulement à ce moment-là que je n'avais encore rien vécu, que je n'avais eu aucune petite amie, que j'allais partir tellement loin que mes sœurs n'arriveraient pas à me localiser sur une carte et que je ne savais même pas vraiment pourquoi je partais dans ce pays. Est-ce que j'ai eu peur? Oui. Est-ce que j'ai regretté? Même pas. Je me suis raisonnée en me disant que Dieu m'accompagnerait dans chacun de mes pas, parce que j'avais été élevée ainsi. Et je suis partie avec les autres en Louisiane, Tigerland, pour la fin de mon instruction. Puis, j'ai été expédiée directement au Vietnam en ne sachant pas très bien si je reviendrais en Amérique sur mes pieds ou éparpillée en 1000 morceaux dans une boîte scellée. Pendant longtemps, je me suis dit que si je n'y étais pas allée, Leslie n'aurait pas été aussi fascinée par les armes. Si fascinée par mon uniforme qu'il en avait désiré un aussi. Peut-être que si je n'y étais pas allée, il serait encore vivant. Assis à côté de moi, me raconter des histoires sur les filles qui lui faisaient du charme au lycée. Et je ne serais pas ici, à geler de froid, seule avec mes fantômes.
Baisse. Je m'efforce d'avancer, coûte que coûte, pas à pas, mais je ne suis pas sûre que ça me mènera quelque part. Par moments, au milieu de la neige, j'ai l'impression de voir des formes qui bougent, mais elles s'estompent aussi vite qu'elles sont apparues. Cette maudite neige qui ne peut pas tomber tout droit comme une bonne pluie bien drôle. Pour tenir, j'essaie de me rappeler la Californie, de me souvenir des plages où les parents nous emmenaient chaque week-end après l'office, tous les quatre, au bord de l'océan, à manger des sandwichs en jouant aux cartes, avec le soleil qui nous engourdissait. Cette chaleur-là, je n'arrive plus à m'en souvenir. Dans ce coin, même en été, on n'éprouve jamais cette sensation de cuir sous les rayons du soleil. C'est tout juste s'il vous réchauffe les os. Juste assez pour croire que vous allez avoir chaud,
mais cela n'arrive jamais. Parfois, je rêve de l'océan Pacifique, de ses rouleaux, du sel sur la peau et des cheveux gainés par les embruns. Ici, il n'y a que de l'eau douce, des hectolitres d'eau douce, des lacs, rivières, fleuves, ruisseaux, cascades. De l'eau partout, tout le temps, sous toutes ses formes, gelée, fondue, claire comme de l'eau de roche ou boueuse au printemps, et froide, toujours froide. Pas de quoi avoir envie de se baigner. Je donnerais n'importe quoi pour un bain de soleil sur la plage, à écouter les vagues s'écraser sur le sable. Bizarrement, j'arrive encore à me souvenir de l'odeur de cette crème solaire à la noix de coco que maman se mettait quand j'étais petite et qu'elle s'évertuait à essayer de bronzer sans coup de soleil, malgré sa peau laiteuse. Elle était vraiment pas mal avant. Nous ne roulions pas sur l'or, mais elle était toujours élégante. Petite, mais avec de l'allure, et une poitrine d'actrice de cinéma des années 50. Papa était tellement amoureux qu'il disait que Rita Hayworth pouvait aller se rhabiller. Je ne comprenais pas trop la comparaison avec une vieille actrice qui était morte l'année de ma naissance. Mais maman avait l'air d'apprécier le compliment. Cassandra et lui étaient blonds, avec des cheveux presque blancs. Ses origines scandinaves qui ressortaient sans doute. Moi, j'avais hérité des cheveux roux de ma mère, une authentique américaine d'origine irlandaise. Ce n'était pas le plus facile à porter. Mais au moins, on nous reconnaissait de loin. Tiens, regarde ce qui arrive. C'est Elisabeth Morgensen et sa mère. À l'adolescence, j'avais eu peur de n'être en réalité qu'une copie ratée d'elle-même. Mais ça ne poussait pas, et j'avais les hanches étroites de garçon. Rien à voir avec un sexe symbole, même sur le retour. Après, ses cheveux sont devenus gris, d'un coup. Elle les portait en une longue tresse défraîchie, jaunie à son extrémité à cause de la nicotine. Elle qui avait toujours été tirée à quatre épingles, elle avait finalement renoncé. Cela n'avait plus de sens de se raccrocher à des bouts de tissu ou à des tubes de rouge à lèvres alors qu'il lui manquait l'essentiel. J'ai essayé d'oublier cette mère-là, en plus de tous ceux qui avaient déjà disparu. J'ai renoncé aussi à ma manière. Il faut croire que nous ne nous ressemblions pas que physiquement. Pourtant, je ne peux pas abandonner totalement. Le gosse est dehors, et celui-là, il faut que je le sauve. On ne peut décemment pas commettre deux fois la même erreur.
Bénédicte, je m'efforce de faire attention aux détails. Des fibres de vêtements, un objet perdu, une branche brisée nette à hauteur d'homme, le sol affaissé à un endroit, mais le blizzard ne me laisse pas voir grand-chose. Parfois, le vent s'arrête d'un coup. Tout retombe au sol, comme les plumes d'un oreiller, et je distingue à peu près ce qui m'entoure, mais c'est toujours passager. Papa disait que c'était pire que la tempête en elle-même, ce moment où tout est suspendu, comme lorsque vous êtes dans l'œil du cyclone, et où vous commencez à espérer, alors que le répit sera de courte durée et qu'il faudra lutter à nouveau. La tête rentrée dans les épaules, à vous maudire de vous être trop couvert et de transpirer dans votre parka. Cette maudite transpiration qui finira par vous refroidir ou vous déshydrater tellement que vous aurez envie de bouffer de la neige. Quand j'arrive à voir devant moi à plus de 10 pieds, j'espère encore distinguer la silhouette du gosse et celle de Bess. Avec son air de défi, le menton toujours relevé, comme si elle voulait paraître plus grande qu'elle ne l'est. C'est ce qui énerve le plus les gens, cette impression qu'elle veut donner que rien ne peut l'atteindre. Elle est vraiment jolie dans son genre, avec sa peau mate et ses cheveux roux. Mais c'est un foutu caractère, et je ne sais jamais ce qu'elle a derrière la tête. Je pensais quand même que ce serait une bonne idée. Elle était plus instruite que n'importe qui chez moi, ce qui n'était pas difficile, et elle avait envie de partir. Il me fallait quelqu'un pour le petit, quelqu'un pour lui faire la classe. Mais bien sûr, elle a été vite dépassée. Il en sait tellement sur ce que l'on apprend dans les livres, et si peu sur ce qui permet de vivre ici. Ça sert à quoi d'être incollable sur cette histoire de tectonique des plaques, si vous ne savez pas quoi faire en cas de tremblement de terre ? Il connaît les noms de chaque fosse sous-marine du globe. Mais il est incapable de pêcher le moindre poisson, et encore moins de le préparer. Cole a dit qu'il s'occuperait de lui apprendre tout ça au printemps, du moins l'aspect « comment survivre selon Magnus ?» Parce que pour l'école, c'est bien le dernier qui pourrait nous aider, même s'il a grandi en ville et qu'il n'a aucune excuse. De toute façon, je ne pourrais pas le garder toujours ici. Il faudra bien qu'il soit scolarisé, comme tous les enfants de son âge. Et ils essaieront sûrement de le récupérer à ce moment-là. Bon sang, qu'est-ce que j'ai à offrir à un gosse dans un coin aussi perdu ? Qu'est-ce que j'ai à lui offrir, à part des paysages désolés et de la neige à n'en plus finir ?
Cole, nous marchons depuis une bonne heure, si on peut appeler ça marcher. Être dehors avec ce temps, sacrée idée. J'ai rien demandé, moi. En fait, elle peut crever, ça me sera égal. Je vais pas risquer ma peau pour une bonne femme qui a rien à faire ici. Je sais pas ce qu'il lui a appris à Bénédicte, à moins que ce soit juste son petit cul qui l'a intéressé. J'aurais pas cru comme ça, à vrai dire. Avec une mère comme la sienne, il aurait dû savoir que c'était pas une fille à ramener. Elle, au moins, elle savait ce que c'était une bonne épouse, une femme qui épaulait son homme sans lui causer de problème. Le pire, c'est que je crois qu'ils couchent même pas ensemble. Clifford dit qu'il ne se la fait pas, que ça se verrait dans leur façon de se tenir, et qu'elle serait un peu moins hystérique s'il y avait un bonhomme pour lui donner ce qu'elle attend. Qu'est-ce que c'est que cette affaire ? Ramener une bonne femme, c'est pas la mère du môme. L'installer chez soi, dans la propre chambre de ses parents, pour faire Dieu sait quoi, et lui laisser l'éducation du gamin, alors qu'il vaudrait mieux lui apprendre à se servir d'un fusil. Bon sang, c'est un meilleur, pas un machin chose, de la côte Est. J'ai proposé à Bénédicte de lui apprendre au moins les trucs indispensables pour se débrouiller comme un vrai trappeur, et il est d'accord. Il dit que ce sera peut-être plus facile si ça vient pas de lui. Dès que ce blizzard s'arrêtera et que le printemps pointera enfin le bout de son nez, j'emmènerai le gamin camper, quoi qu'en dise la mégère. Elle veut pas que je m'en occupe. Elle dit qu'elle le lâcherait pas d'une semelle. Mais Bénédicte l'a pas écouté, il a bien raison. Pour sûr, elle l'a pas lâché, le môme. Elle l'a emmené dehors avec elle. Et ça lui fait une belle jambe à Bénédicte d'avoir confié sa descendance à une bonne femme pareille.
Freeman, je suis rentrée aux États-Unis en 1972 et j'ai vite compris que je n'avais pas plus de place que lorsque j'étais partie. Ce qui avait le plus changé durant mon absence, c'est l'importance que le combat pour nos droits civiques occupait dans ma famille. Mes sœurs étaient devenues des militantes. Elles organisaient dans le salon exigu de notre mère des réunions avec leurs frères de combat, comme elles les appelaient. Et elles portaient leurs cheveux au naturel, comme des auras autour de leur tête. Et plus les coiffures sages dont elles disaient qu'elles devaient surtout les faire ressembler à des blanches. Ce qui avait aussi définitivement disparu, c'était le peu de docilité qu'elles avaient encore avant mon départ. Rhonda et Doris se mettaient en colère contre moi en me reprochant ma passivité, mon incapacité à me révolter contre ce que ce gouvernement de blanc m'avait fait vivre en m'envoyant combattre dans une guerre qui ne me concernait pas. Je protestais comme je pouvais en leur disant que j'avais fait mon devoir d'Américain. Chaque fois que je m'échappais de leur soirée avec tous ces types qui me regardaient bizarrement, chaque fois que je refusais d'aller manifester avec elles, Michel me disait que je n'étais qu'un bon petit nègre bien obéissant, comme les blancs en rêvaient. Elle savait bien ce qu'elle faisait. Ce mot dans sa bouche avait l'effet d'une gifle. En vieillissant, j'ai dû admettre que j'étais sans doute passée à côté de ce combat. Mais à cette époque, je ne savais pas faire autrement que me comporter comme j'imaginais qu'un jeune homme raisonnable, croyant en Dieu, devait se comporter. Le poing levé, les revendications, les affrontements avec la police, ce n'était pas dans ma nature. Finalement, en rentrant dans l'armée, j'avais eu l'impression d'être ce que je devais être, un bon soldat. Peu importe les motivations de ceux qui m'avaient envoyé me battre. Je l'avais fait pour l'Amérique. Même si je dois reconnaître que l'Amérique n'avait pas fait grand-chose pour moi à mon retour. J'ai trouvé un petit boulot de manutentionnaire dans un de ces nouveaux supermarchés qui venaient d'ouvrir et j'ai pu prendre mon propre appartement. C'était un soulagement pour tous. Ce n'était qu'une unique pièce exiguë, meublée de manière spartiate, qui empestait le salpêtre et les remugles du restaurant d'en dessous. Mais c'était le paradis pour moi. Ensuite, j'ai rencontré Martha, un dimanche, à l'office du pasteur Williams. Nous nous sommes fréquentés pendant de longs mois, et puis nous nous sommes mariés. Elle était comme moi, sage et réservée. Et, Dieu m'est témoin, c'est la seule femme que j'ai jamais désirée. Leslie est née quelques années après notre mariage, et les médecins nous ont dit que Martha ne pourrait plus avoir d'enfant. Son cœur était trop fragile pour supporter une autre grossesse. C'était comme ça, il n'y avait rien à redire. Nous avons accepté cette décision du Seigneur parce qu'il nous avait déjà tellement donné. Un fils, c'était largement suffisant pour nous combler, et pendant longtemps, cela a été le cas. Mais il y a des choses qui ne durent pas. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le bonheur occupe toujours la première place du classement.
Chers auditeurs, finissez d'assembler les pièces de ce roman choral en le lisant. Ce récit est un roman noir dans l'univers blanc et glacé du blizzard. On épouse successivement le monologue intérieur de chaque personnage confronté à un terrible événement, la perte d'un enfant. Habilement, l'auteur nous plonge et nous mène dans des contrées intérieures et géographiques extrêmement différentes et dessine finalement des chemins de vie. Marie-Paul, Guylaine, Monique et Anne ont préparé et lu cette émission. Vous avez entendu des extraits du concerto numéro 1 pour violon de Philippe Glass. Nous remercions vivement Claude Michel pour le montage. À bientôt. Chers auditeurs, si vous souhaitez réagir à cette émission, en connaître les horaires, la télécharger, nous rejoindre, rendez-vous sur le site de Radio G 101.5 ou sur le site de l'émission www.impromptu.fr. Vous nous y retrouverez.
www.radio-g.fr.
Bonjour, je suis Mélanie Alétruf, directrice du Chabada, la salle des musiques actuelles d'Angers. Le Chabada, en 2024, fête ses 30 ans. 30 ans d'histoire, de musique et des milliers de groupes programmés. Nous vous proposons de découvrir l'histoire de cette salle au travers d'une mini-série de 3 podcasts, Petite histoire et grande histoire du Chabada. Écoutez-nous à partir du mois de mars sur les plateformes de podcast, dans les programmes de Radio G et de Radio Campus Angers. Vous trouvez toutes les informations sur notre site internet. Ce programme est soutenu par le PNV, Programme d'État. Bonne écoute à vous et à bientôt au Shabada.
Une sale affaire, le premier épisode de cette série de podcasts dédiée